L'amendement à la loi qui supprime le droit de la Cour suprême de rejeter les décisions du gouvernement et des ministres en évoquant un principe de raisonnabilité a été, est entré en vigueur. En fait, elle a été publiée dans ce qu'on pourrait appeler le journal officiel ou même les archives de la Knesset. Il y a même la signature du président qui est encore technique. Mais voilà, cette loi est entrée en vigueur. Raisonnabilité, ça veut dire que les juges de la Cour suprême ont le droit de décider jusqu'à présent. Puisque c'est fini depuis ce matin, les juges de la Cour suprême avaient le droit de considérer qu'une loi était, qu'il n'était pas raisonnable d'agir de telle sorte, dans leur grande sagesse de juge, et je ne suis pas du tout ironique, ils disaient, voilà, nous en tant que sages, on pense que ce n'est pas faisable. Nous sommes en ligne pour en parler avec Pierre Lursa. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Bernard.
Pierre, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. Le dernier s'appelle « Quelle démocratie pour Israël ?» et vous vous interrogez notamment de cette histoire de gouvernement des juges. Et je voudrais revenir avec vous sur cette idée de raisonnabilité. Alors, les opposants disent « Attends, nous on a voté, c'est pas pour que quelqu'un vienne, qui n'a été élu par personne, décide si je suis raisonnable ou pas raisonnable, je suis un adulte, si on me donne le droit de vote, c'est que je suis raisonnable. Donc non, on va pas demander ça à quelqu'un. » Mais il se trouve que c'est pas si simple, et je vais vous donner l'exemple qui est le plus connu, et qui est celui qui a déclenché, enfin qui est l'un des premiers depuis le début de cette histoire. Arié Dery a été condamné par la justice pour des faits qui sont liés à de l'argent. Et il voulait être ministre de l'Intérieur, il n'y arrivait pas, bon alors peut-être ministre des Finances, et là les juges ont levé la main en disant, excusez-moi, quelqu'un qui a été condamné pour des histoires de tripatouillage de l'argent, c'est pas raisonnable de le mettre ministre des Finances ou de l'Intérieur. Alors Pierre, je sais très bien que vous êtes très heureux que les juges ne puissent plus faire ça, mais moi je vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire que des juges viennent et disent stop, quand c'est trop, il y a des intérêts des partis. Dans d'autres cas, c'est l'intérêt du propriétaire contre le locataire. Là, cette fois-ci, c'est clairement des intérêts de coalition. Non, c'est pas raisonnable, on peut pas faire ça, on peut pas le nommer. Pourquoi est-ce que vous pensez que les juges, puisque j'ai lu votre livre, pourquoi vous pensez, donc je sais ce que vous pensez, c'est-à-dire je sais que vous êtes contre, pourquoi est-ce que vous êtes pas d'accord avec moi? Que il y a quand même des juges qui doivent dire non mais monsieur, c'est pas possible ça.
Oui, pour une raison très simple, c'est que en principe la justice est censée dire le droit, c'est-à-dire que le rôle du juge c'est de dire ce qui est légal et ce qui ne l'est pas, c'est pas de dire ce qui est raisonnable. Et en étendant ce critère du raisonnable qui a été étendu sans aucune limite, c'est ça la question, c'est eh bien on a ouvert la porte à la subjectivité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce sont des juges qui décident de manière purement subjective qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui ne leur plaît pas. Effectivement, vous avez pris l'exemple d'Arié Dery, qui est un exemple un petit peu limite, qui est un cas limite parce qu'il y a beaucoup d'exemples beaucoup plus triviaux. Sur lequel, je dirais, le débat est beaucoup plus, la question est beaucoup plus flagrante.
Et il n'est pas limite, il est au contraire, il est mainstream, il est en plein cœur de... C'est justement, il n'est pas limite, c'est pour ça que
oui, mais
ça vous gêne, parce qu'il n'est pas limite, c'est hyper normal.
Non, mais même sur ce cas, on peut tout à fait argumenter en disant que c'est aux électeurs qu'il appartient de décider. Dans la mesure où il n'y a aucune loi en Israël qui l'empêche, et après tout, la Knesset peut tout à fait décider que... qu'il serait interdit à un ministre qui a été inculpé de continuer à siéger. En Angleterre, il n'y a pas de loi, il y a une tradition juridique. En Israël, nous sommes un pays très jeune, il n'y a pas de tradition juridique. Et le problème, c'est que la Cour suprême, je dirais, s'est un peu engouffrée dans ce vide. Et elle fait comme si c'était elle le premier pouvoir, c'est ce que je décris dans mon livre, le premier et le seul pouvoir en Israël. Et le critère du raisonnable, c'est la porte ouverte, comme j'ai dit, à la fois à la subjectivité et aussi à des décisions qui finalement sont des décisions de pure opportunité, qui sont finalement des décisions politiques. Et finalement, c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que la Cour suprême d'Israël, elle ne dit plus le droit, elle dit, elle exprime des opinions politiques sur toutes sortes de questions, et finalement, on a l'avis politique de juges qui, comme par hasard, sont tous de la même tendance, pratiquement, s'estiment au-dessus de la Knesset, au-dessus du gouvernement, et donc la Cour suprême est devenue le premier pouvoir en Israël.
Par exemple, si un propriétaire prend une décision, je sais pas, voilà, il m'expulse. Et les juges viennent et disent « Non, monsieur, vous ne pouvez pas expulser. » Ce n'est pas quelque chose qui nous semble, à nous, Français, quelque chose d'inimaginable. Alors, la deuxième question, Pierre Lursa, vous pouvez évidemment répondre à tout ce que je vous dis, hein, y compris ce que je viens de dire maintenant. Mais la deuxième question qui vient, c'est celle que vous utilisez, d'ailleurs que vous venez encore d'utiliser, et sur laquelle vous revenez abondamment dans votre livre, c'est on a la majorité, on fait ce qu'on veut. Et Pierre Lurçat, ça aussi, c'est pas vrai. C'est pas parce qu'on a la majorité qu'on fait ce qu'on veut. Si demain, vous voulez faire passer une loi en Israël qui permet qu'on tape les petits-enfants, qu'on tue les femmes âgées, vous dire, monsieur, vous avez beau avoir la majorité, on n'est pas d'accord. Vous ne ferez pas
ça. Là, vous caricaturez le débat. Personne ne dit qu'on a la majorité, qu'on fait ce qu'on veut. On dit simplement que...
On a la majorité quand même, c'est à nous de décider. Mais non, c'est pas parce qu'on a la majorité qu'on peut tout faire.
Non, j'ai pas dit ça. J'ai simplement dit que la Cour suprême ne doit pas s'ériger en premier pouvoir. Et qu'il y a eu l'équilibre des pouvoirs en Israël a été mis en danger par la Cour suprême, par son arrogance et par le fait qu'elle est devenue le premier pouvoir. Et pour reprendre l'exemple que vous avez cité, si demain on vote une loi qui dit qu'on a le droit de taper les petits-enfants. Enfin, c'est intéressant parce qu'il y a eu justement un arrêt de la Cour suprême sur cette question qui a dit que le simple fait de donner une gifle ou de donner une tape légère sur la main de son enfant pouvait être considéré comme des coups et blessures. Et vous voyez que finalement la
coups.
Cour suprême... De...
Pas comme des oui, blessures, comme des coups.
Oui, dans le code pénal israélien, ça s'appelle coups et blessures. Je dirais que la question est-ce que la fessée est légale en Israël, hein, puisque vous prenez cet exemple un petit peu trivial, mais qui après tout qui concerne tout le monde, tous les parents et tous les enfants, eh bien c'est une question qui relève du législateur. C'est pas la Cour suprême de dire si les parents ont le droit d'utiliser des punitions corporelles très légères. Vous voyez, la Cour suprême, ça n'est pas le garant de toutes les, c'est pas elle de d'édicter toutes les normes de la société israélienne. D'autant que la société israélienne est divisée sur les normes. On le voit bien aujourd'hui. Hein, on voit bien que le débat de fond qui se cache derrière ce débat apparemment technique et juridique, c'est un débat sur l'identité d'Israël. Mais la question est-ce qu'on doit être un État juif ou un État occidental ? Hein, vous avez entendu comme moi ces restaurateurs de luxe à Tel Aviv qui ont dit qu'ils allaient ouvrir ce soir de Tisha B'Av, pour protester soi-disant contre la réforme judiciaire. Je vois pas le rapport entre la réforme judiciaire et le fait que des gens vont aller manger du caviar le soir de Tisha B'Av. Ça veut simplement dire que ces gens-là n'en ont rien à faire du calendrier juif, c'est tout.
Moi, j'ai pas l'intention de manger ce soir. Je vous le dis franchement, le prenez pas mal, Pierre. Et j'ai pas du tout l'intention d'empêcher ceux qui veulent manger de manger. Le prenez pas mal, c'est ce que je pense. Je voudrais vous donner avant moi. Moi, je vais empêcher personne de, parce que c'est pas ma façon de faire. Et je vous garantis que je ferai cette mitzvah là ce soir. Je vais vous donner un autre exemple. Vous savez ce qu'a fait la Cour suprême hier ? Non, avant-hier. Avant-hier. La Cour suprême a autorisé à ce qu'on expulse une famille palestinienne de sa maison à Jérusalem. Après plusieurs dizaines d'années de batailles juridiques, la Cour suprême a statué que la propriété dans la vieille ville de Jérusalem, où vivait la famille Raït Soub Laban depuis 1950, cette maison en fait appartient à un groupe juif qui s'appelle le Kollel Galicia. C'est un groupe qui collectait des fonds en Europe de l'Est pour des familles juives de Jérusalem avant la création de l'État d'Israël en 1948. Ils ont fait un recours, alors qu'on est en 2023. Et ils ont dit, c'est notre maison. Même si ça, oui. Par exemple, si vous ne trouvez pas raisonnable d'expulser les gens, c'est notre maison. C'est à nous. C'est à notre association. Ça a pris des années pour qu'ils récupèrent. Et la Cour suprême leur a permis de rentrer chez eux. Donc, je vous dis, c'était il y a quelques jours, moins d'une semaine. Pourquoi vous dites que la Cour suprême, c'est une association de gauchistes?
Non, c'est pas non plus l'expression que j'ai employée.
Tout le monde dit c'est des gens du Meretz, un truc comme ça, des gens du Meretz, ils font pas.
Oui, quelqu'un a dit c'est la cellule du Meretz à Jérusalem.
Les gens du Meretz, ils font pas ça.
Mais la Cour suprême, comme une pendule arrêtée, peut donner l'heure deux fois par jour. Le problème, c'est pas que la Cour suprême se trompe tout le temps. Le problème, c'est plutôt qu'elle se donne le droit d'intervenir tout le temps. C'est plutôt ça. Effectivement, elle peut rendre des raisons qui sont des décisions qui paraissent justes ou équitables. Évidemment, les juges ne se trompent pas tout le temps. Je dis simplement qu'ils ne sont pas au-dessus des autres hommes. Et c'est ça la question du raisonnable. C'est finalement, et d'ailleurs, c'est un juge à la Cour suprême qui l'avait dit. C'est le juge Asher Gronis qui l'avait dit il y a quelques années. Il avait dit, si le critère du jugement devient le raisonnable, alors en quoi est-ce que nous sommes plus raisonnables que d'autres personnes, que des hommes politiques et que d'autres, que des décisionnaires publics, hein? Si le critère, ça n'est plus le légal mais le raisonnable, alors effectivement, c'est la subjectivité qui l'emporte. Et c'est bien ça que la loi qui a été votée hier vient réparer. C'est-à-dire ramener un petit peu les choses dans leurs proportions et ramener à leur place les juges, c'est-à-dire ils doivent être des arbitres de ce qui est légal et de ce qui n'est pas légal. Ils ne doivent pas être les arbitres des questions de société et doivent pas, et surtout et encore moins, être les arbitres des questions politiques.
Pierre Lursa, comme Tisha B'Av va rentrer dans très peu de temps, peut-être à Jérusalem, c'est vraiment encore plus rapide que pour nous ici à Paris, je vais vous faire écouter un son. C'est dans une manifestation, c'est hier soir. Et il y a un des manifestants qui prend la parole et il parle aux autres manifestants. Je vous propose, je vais traduire rapidement, c'est vraiment ces trois phrases, mais on va écouter et je voudrais avoir votre commentaire. S'il vous plaît, je manifeste comme vous. Je suis Katsin, officier dans les Milouim. Je suis marié, je vous demande à tous, je viens de dialoguer avec la police, avec le Mishmar Agvoul qui est sur le terrain. Ils ont accepté ma demande. On va continuer à manifester, je vous demande de monter sur le trottoir et de ne pas être sur la route. Alors qu'on a déjà eu 6 heures de droit de manifester sur la route, je vous demande de monter sur les trottoirs. Il n'y a pas de problème, on ne va rien inventer à ça, on ne va rien abandonner, mais on va sur les trottoirs. Montez sur les trottoirs, s'il vous plaît. Pierre Lursa, j'ai oublié de traduire, en fait, c'est parce que ça va très vite, la façon dont il parle. Au début, il dit j'ai un port d'armes. J'ai un port d'armes, je suis officier dans les Milouim, je vous demande, je ne parle avec la police. Comme on est à quelques minutes, presque, de Tisha B'Av, j'aurais quand même qu'on se rassure tous un peu. Un leader manifestant qui parle comme ça, c'est en France, vous ne verrez jamais ça. Hein. C'est en Israël qu'on parle comme ça. Qu'il y a cette volonté de dire on va pas tout casser non plus. C'est-à-dire, le gars, il se revendique même comme homme marié. C'est un argument pour les manifestants. Je suis marié, c'est-à-dire, je suis un homme responsable. Je ne suis pas... Et je voudrais avoir votre commentaire sur ce qu'on vient d'entendre.
Tous les dirigeants des manifestations se soient aussi raisonnables que lui et qu'ils aient tous cette humilité, parce que malheureusement, ce n'est pas ce qu'on a vu ces derniers mois. On a vu malheureusement beaucoup trop de gens qui essayent de... pour conserver leurs privilèges, parce que c'est aussi de ça qu'il est question. C'est un peu une caste privilégiée en Israël qui essaye de défendre ses privilèges. On aimerait que tout soit mû par les mêmes sentiments fraternels. Et ceci dit, moi, je vous rassure, Bernard, je pense aussi qu'il n'y a pas de guerre civile en Israël. Il y a beaucoup de gens qui essayent d'attiser, de mettre de l'huile sur le feu. Mais finalement, on a vu aussi des gens qui s'embrassaient dans le train des manifestants de bord opposé. On reste tous... il y a quand même cette fraternité qui l'emporte. Et de ce point de vue-là, je suis d'accord avec vous. Et je pense que le peuple d'Israël reste uni malgré ses divisions et malgré tous ceux qui sèment la division, y compris d'ailleurs des gens qui ne sont pas en Israël et y compris des pays étrangers qui essayent de semer la discorde au sein du peuple juif.
Ça sera une très belle conclusion donc avant le jeûne de Tisha B'Av. Et on a tous vu aussi ces vidéos sur cet escalator, c'est le hasard le plus complet. Et un grand escalator à Jérusalem. Et ceux qui vont à la manifestation de gauche montent. Et ceux qui vont à la manifestation de droite descendent. C'est le destin, le sort ou Dieu qui a fait qu'ils se croisent à cet endroit-là. Et je vous promets que vous avez vu les vidéos, Pierre, je sais. Et beaucoup de gens qui nous écoutent aussi. Ils se serrent la main, ils se sourient, chacun y va à sa manif. On aimerait bien que ça continue comme ça. Pierre Lursa, je vous remercie d'avoir été notre invité à Jérusalem. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Quelle démocratie en Israël. Bonsoir à vous.
Bonsoir Bernard, Tom Kalumoy.